L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'autre radio, ça s'appelle l'AJT du local, nous sommes le lundi 8 février et je suis en compagnie de Claire. Bonjour Claire, comment ça va ?
Bonjour Marie, bonjour tout le monde, en direct toujours à Laval où il faisait 1 degré ce matin, donc un peu froid, mais ça va, j'ai réussi à démarrer la voiture, donc tout va bien.
On prend maintenant des nouvelles de la voiture de Claire tous les jours dans votre émission. Non, c'est vrai que forcément ça s'est un peu rafraîchi, mais tant mieux puisque ça te permet au moins d'être là avec nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus joli, on va parler donc de ce prix qui récompense l'innovation en termes d'intelligence artificielle. C'est une première à l'initiative de Laval Mayenne Technopole. Les associations caritatives encore plus sollicitées, hein, on le sait, en cette période de crise sanitaire. Exemple dans votre émission au Secours Populaire où le préfet de la Mayenne s'est rendu vendredi. Et puis c'est le début de notre série au studio vidéo de la ville de Laval avec plein de pépites dans les archives à découvrir.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Nouvel accident dans le sud de Mayenne.
Un homme est décédé hier vers 18h30 après un accident de la route sur la départementale 128 entre Saint-Plé et Peuton. La camionnette qu'il conduisait a quitté la route et s'est retrouvée sur le toit pour une raison encore inconnue. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, est décédé sur le coup.
Un camion couché sur la route à la Bazouge des Alus.
Ce matin, l'accident s'est produit vers 9h sur la départementale 24 entre la Bazouge des Alus et Montsûr. Un camion s'est donc couché sur la route. Son conducteur blessé a été transporté à l'hôpital de Mayenne. Une déviation a été mise en place le temps que le véhicule ne gêne plus la circulation.
5 personnes testées positives aux variants.
Dans le département, depuis un mois, les variants du coronavirus ont été détectés chez 5 personnes. Plus de 11 000 personnes ont, elles, été vaccinées en Mayenne. Quant au taux d'incidence et au taux de positivité, il diminue légèrement à 156,5 cas pour 100 000 habitants et 6,2% des tests positifs.
Des infirmières à domicile pour aider l'isolement des personnes contaminées.
Une mesure mise en place par la CPAM de la Mayenne depuis 2 semaines. À chaque personne testée positive à la Covid-19 est proposée la visite à domicile d'une infirmière libérale entièrement prise en charge. 128 infirmières sont impliquées dans ce dispositif. C'est une visite de prévention pour sensibiliser à l'importance de l'isolement, rappeler que la maladie est aussi dangereuse pour l'entourage de la personne contaminée et pourquoi pas dépister les membres de cet entourage.
Les 3 centres commerciaux autour de Laval ont rouvert leurs portes.
Et oui, finalement, alors qu'ils avaient été fermés lundi après les annonces du Premier ministre Jean Castex, les 3 centres commerciaux ont finalement réouvert leurs portes ce samedi. Il s'agit de la galerie marchande du centre commercial La Mayenne, Pégase à Laval et du Leclerc de Saint-Berthevin. Un revirement qui s'explique par un nouveau calcul. Si on enlève les boutiques vides du calcul de la surface, ces centres commerciaux font moins de 20 000 mètres carrés. Seules quelques boutiques ont attendu ce lundi pour rouvrir, une question d'organisation.
Olivier Richefou demande plus de moyens pour l'Université de Laval.
Le président du département a adressé un courrier à la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal où il lui demande de dégager des moyens supplémentaires pour la création de postes sur le campus universitaire de Laval, le tout pour accompagner l'accueil de nouveaux étudiants et pour, je cite, « conserver un équilibre entre les différents acteurs de l'enseignement supérieur ». Si on traduit un peu ses propos, c'est-à-dire entre la fac et l'Université catholique de l'Ouest en phase d'extension dont les travaux sont financés en partie par des subventions publiques, une décision critiquée par un collectif de 13 organisations.
Une première victoire pour le SNUDI FO53.
Le ministère de l'Éducation a annoncé qu'aucune fermeture de classe ne sera décidée dans les communes de moins de 5000 habitants sans l'accord du maire, à la grande satisfaction du syndicat SNUDI FO53 qui le considère comme un premier pas dans la prise en compte des difficultés rencontrées dans les écoles.
Dans le Nord Mayenne, les élus et les associations tirent la sonnette d'alarme.
Ils se sont réunis à Saint-Denis-de-Gâtine samedi. Thierry Chrétien, le maire de la commune, a adressé son soutien aux associations du pays de l'Ernée. Il les a invités à signer une lettre commune adressée au gouvernement. À cause des restrictions sanitaires, il y aurait déjà 25% de licenciés en moins en moyenne dans les clubs sportifs d'Ernée. Présent sur place, le député Yannick Favennec a promis qu'il porterait les revendications des associations mayennaises à l'Assemblée nationale cette semaine.
Changer dit adieu à la Coupe de France.
Après leur défaite 1-0 hier contre les Herbiers, pas de regret pour les Changéens qui se sont bien battus face à des Vendéens plus réalistes. Il ne reste donc plus qu'une équipe mayonnaise en lice, le Stade Lavallois. En décalage d'un match, les hommes d'Olivier Frappoli se sont qualifiés pour le 7e tour de la Coupe de France en s'imposant samedi à Vigneux-de-Bretagne 2-1.
Deux nouvelles arrivées sur le Vendée Globe.
Jérémy Bayou a bouclé son tour du monde samedi matin en 13e position. Le skipper du bateau Charal revient de loin. Il avait été victime d'avarie après avoir heurté un objet flottant non identifié peu de temps après le départ en novembre. Il a été suivi l'après-midi par une nouvelle arrivée, celle de Romain Attanasio, arrivé 14e au Sable d'Olonne. Le navigateur de Pure Best Western se projette déjà sur un troisième Vendée Globe en 2024, pourquoi pas.
Et Marie, ils sont les lauréats du premier prix industriel.
Les entreprises angevines CrossData et vendéennes Hydrokit ont été récompensées dans le cadre du West Data Festival organisé par Laval Mayenne Technopole. L'objectif, attribuer une distinction à la meilleure application de l'intelligence artificielle au sein de PME industrielles. Un prix remporté donc par Hydrokit, spécialisé dans l'hydraulique pour l'agricole et les travaux publics, et CrossData, Jean-Charles Rongère est l'associé. La société est spécialisée en intelligence artificielle pour l'efficacité commerciale et industrielle des entreprises.
Ça vient récompenser un travail qui est mené depuis un an sur les données commerciales et clientèles de l'entreprise Hydrokit, qui a pour but de les aider à mieux accompagner leurs clients. On est venu analyser l'ensemble de leurs données, et notamment leurs données clients, pour leur dire quels étaient les clients qu'il fallait qu'ils réactivent ou avec lesquels ils pouvaient échanger afin de leur proposer de nouveaux produits. On les a aussi aidés à identifier des zones de France où ils peuvent encore se développer. On les a accompagnés aussi sur de la recommandation de produits pour proposer, et ça c'est encore un projet en cours, proposer à leurs clients le meilleur produit au meilleur moment. L'intelligence artificielle ne vient jamais remplacer un travail qui était déjà effectué avant, en tout cas pas dans les projets qu'on mène. Le travail pour identifier ses clients, identifier ses nouveaux produits, etc., aurait été extrêmement long et fastidieux et aurait nécessité de nombreuses ressources et donc n'aurait pas été fait probablement. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a pu faire et les aider, c'est de gagner du temps. L'intelligence artificielle, toutes les techniques d'intelligence artificielle sont là pour faire gagner du temps et rendre certains aspects du travail beaucoup plus faciles. Ce dont on se rend compte, c'est qu'on vient répondre à des problématiques qui existaient déjà dans les entreprises, mais qu'elles n'avaient pas les outils pour les résoudre. On ne fait pas ce boulot pour augmenter le taux de chômage en France, enfin, clairement pas du tout. Et dans la plupart des cas, quand on intervient, on vient souvent enlever une épine du pied à quelqu'un. Sur un projet là, d'accompagnement dans l'industrie automobile, on avait des équipes qui passaient 30% de leur temps à faire des tâches qui sont un peu rébarbative mais nécessaire. En mettant en place un projet avec eux, et ben en fait aujourd'hui les 30% du temps ils peuvent les passer à faire des choses plus intéressantes. Et c'est la plupart des cas ou la plupart des projets qu'on a, soit on vient enlever une tâche rébarbative à quelqu'un et on vient le remplacer par une tâche plus intéressante, soit on vient proposer de faire plus de choses en autant de temps. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles portes pour nos clients qui avant leur étaient fermées, soit par manque de temps, soit par manque de ressources existantes.
Une intelligence artificielle de plus en plus exploitée par les entreprises. À titre d'exemple, créée en 2019, la société CrossData est déjà passée de 3 à 9 salariés. La précarité augmente, mais les associations font tout ce qu'elles peuvent pour que le choc soit un peu moins rude, à l'image du Secours Populaire en Mayenne. Interview d'ici quelques minutes, le temps d'écouter The Bahamas avec Up With The Jones.
I started out, I had no plan. I took a job and soon was working for the man. And now it seems, through modern dreams, and all I've done is learn to live beyond my means. Yes, we had the house, and we had the car, and paid for it all on some credit card. Now that ain't right. My second home, your student loans, and every year I got myself a brand new phone. Ooh. Can't do without. Ooh. Don't have the nerve. Ooh. I tell myself that these are things that I deserve. Yes, I can make do
I need all those things, and so I live in debt, and that ain't right. I can't keep up, I guess I can't keep up with the Joneses. I can't slow down, I've lost control. I double down and tell myself I'm on a roll. It's not my fault, it's not like me. I never saw myself as someone who ain't free. Now I'm wondering, has it gone too far? Should I pick up the check at this hotel bar? Now that ain't right. No, 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 no. Everything that I thought I knew, everything I was told was true. I was living a lie, and I never asked why. Now I don't know what to do. I guess I can't keep up, I guess I can't keep up with the Joneses. I was living like the money was king. I let it have a power on me. Now the funniest thing is I'm broken, now I'm finally free. We all know life don't go as planned, so now I'm buying all my records secondhand. It's brought me peace, I've come to see that all my greatest joys in life are always free. I still have my house, but I sold my car, and it felt so damn good to cut up those credit cards. Yeah, that felt right.
Up with the Joneses de The Bahamas sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local et on le disait tout à l'heure, le secours populaire encore plus indispensable en cette période de crise sanitaire. Comme d'autres associations caritatives, l'antenne mayonnaise du secours populaire a vu son activité augmenter depuis un an. Entre mi-mars et mi-mai 2020, ces actions ont aidé 5400 bénéficiaires, soit un millier de plus que d'habitude. Gilles Lemoine est le secrétaire général du Secours Populaire en Mayenne et il rappelle que leurs actions ne se limitent pas à l'aide alimentaire.
C'est vrai que c'est la porte d'entrée, c'est quelque chose de basique et d'indispensable, mais c'est aussi donc des cours de français pour les non-francophones, des cours de code de la route, un relais santé qui permet aux gens de passer notamment des bilans de santé, et puis aussi une ouverture vers des zones qui sont un petit peu abandonnées, hein, donc ce qu'on appelle les zones blanches. Donc on a une antenne mobile qui va sur Landivy, Fougerolles, Duplessis et Saint-Marc-sur-la-Futaie. Et puis également, actuellement, on est sur un projet fracture numérique en milieu rural. Et donc, on va essayer de fournir du matériel aux enfants collégiens, notamment, qui ne disposent pas de ce matériel de base fort indispensable ces jours-ci.
Mais surtout, effectivement, en ce moment, avec tous les cours en distanciel, etc. Comment est-ce que vous avez été alerté sur ces besoins en particulier?
Hélas, c'est la situation Covid qui nous a pointé ce problème-là, à savoir que certains, effectivement, ne pouvaient pas suivre des cours en distanciel comme d'autres, parce qu'ils n'avaient pas le matériel pour. Et donc, la fracture était grandissante par rapport à ces populations, je dirais, en état de difficulté et de précarité. Et donc ça a augmenté encore cette distance entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, en fait.
Et alors là, du coup, quel est le projet et sur quel établissement est-ce que vous comptez intervenir ?
Alors on intervient pour l'instant, parce qu'on va avoir des moyens, mais qui seront quand même limités. Donc on intervient sur les collèges sur lesquels on a des structures, à savoir Pré-en-Paille, Villaine-la-Juelle, et puis le secteur Landivy, Fougerolles-du-Plessis et Saint-Marceau-Raffuté, comme je disais. Donc sur ces collèges-là, donc collèges privés et collèges publics. Et donc avec les principaux ou principales de collèges, on se rencontre, on discute du problème. Ils voient un petit peu les familles qui auront des besoins par rapport à ça, et puis ça nous permet de nous mettre en relation avec ces familles-là, puis de voir quels sont les besoins, et on se rencontrera pour pouvoir faire en sorte que ces gens-là puissent aussi bénéficier de matériel indispensable maintenant.
Et vous comptez en tout cas organiser un petit temps de formation, ou du moins des conseils pour pouvoir bien utiliser correctement justement ces ordinateurs ?
Alors dans la convention qu'on va signer avec les familles, on va demander que les enfants soient aussi acteurs par rapport à leur famille. C'est-à-dire que si les familles ne sont pas trop habituées à ce fonctionnement, que les enfants qui eux vont l'être parce que déjà ils sont au collège et ils l'ont, puissent mettre leur famille derrière un ordinateur sans crainte. L'objectif qu'on demandera, c'est que chaque famille puisse ouvrir au moins une boîte mail, une adresse mail, de façon à ce que ils puissent se mettre, parce que maintenant tout va être passé par Internet, quand c'est déclaration d'impôts, c'est la CAF et tout. Donc c'est aussi les enfants qui seront formateurs, et c'est ce qui nous plaît bien par rapport à ça aussi. Puis on va informer les familles sur aussi les risques et les dangers d'Internet par rapport aux enfants. Donc on va d'office mettre un contrôle parental, mais expliquer aussi aux familles que l'ordinateur, il n'est pas dans la chambre de l'enfant, parce que le soir, la nuit, c'est fait pour dormir. Et donc plein de petits conseils qu'on aura l'occasion de développer quand on rencontrera les familles.
Et donc du coup, je vais revenir aussi sur ce que vous disiez avant. Vous intervenez là, entre autres, dans ce que vous appelez les zones blanches, donc qui correspondent d'ailleurs, j'ai l'impression, un peu au secteur où vous intervenez par rapport à la fracture numérique. Est-ce que c'est le confinement qui a mis ces zones blanches en apparition, ou elles existaient déjà avant ?
Alors, les zones blanches existaient déjà, parce que ça fait déjà 3 ans qu'on essaie de voir un peu ce qu'on peut faire au niveau de ce secteur-là. Mais la zone blanche dans la fracture numérique, on n'en avait pas franchement conscience, en fait. On a vraiment pris conscience par rapport à la crise qu'il y a eu. C'est ce qui fait que sur les secteurs où on est déjà installé pour l'aide alimentaire, on puisse aussi aider les gens sur d'autres domaines, quoi. Sachant que toutes ces structures-là aussi développent les vacances, déjà depuis un certain temps. Ça permet aussi à ces personnes-là de passer quelques jours un peu en dehors de leur mur. Ça fait partie aussi de nos missions, on va dire.
Et justement, quels enfants ou adolescents peuvent avoir le droit à ces vacances ?
Tous sans exception, à partir du moment où on a une famille. Alors on travaille en lien avec la CAF, parce que la CAF a aussi une orientation assez forte par rapport aux vacances. Donc par rapport à ça, on monte les dossiers avec les familles, mais aussi on a nos propres fonctionnements et financements qui permettent, et puis aussi on a des partenaires qui nous permettent aussi de nous mettre des places, que ce soit EDF, SNCF, Kinder, qui nous offrent des places et qui permettent aux enfants de passer 8 jours en vacances sans que ça coûte trop cher à leurs parents.
Et ça bénéficie à combien d'enfants ou de familles, en tout cas ici en Mayenne ?
Alors, je n'ai pas le nombre exact en nombre d'enfants qui sont partis, alors pas trop sur 2020 parce que ça a été assez perturbé, mais sur 2019, c'est une vingtaine, 20 à 30 enfants qui peuvent partir seuls comme ça. On arrive à faire partir aussi une vingtaine de familles, principalement sur les terrains de camping. Et puis aussi, on a des journées organisées parce que parfois, les familles ne sont pas encore prêtes à partir en vacances, parce que ça demande quand même quelque chose d'un peu particulier pour ces familles. Là. Et donc on organise des journées, des sorties à la journée. Alors notre célèbre JOV, journée des oubliés des vacances, après la mi-août, qui permet aux familles et surtout aux enfants qui ne sont pas partis de passer au moins une bonne journée et d'avoir quelques souvenirs à raconter le jour de la rentrée.
Et alors ça, justement, elle avait été maintenue en 2020 ou pas forcément ?
Et non, hélas, parce que c'est un regroupement sur la région, on regroupe quand même plusieurs milliers d'enfants. Et donc tout était prêt, mais c'est resté dans les caisses pour l'instant. Et on espère que cette année, on pourra y aller. Alors si par hasard on ne peut pas, on fera des petites sorties, mais beaucoup plus limitées en nombre. Faire sortir 2 ou 3 familles sur un projet, sur un endroit. Et à ce moment-là, on pourra multiplier ce genre de procéder plutôt que d'avoir vraiment le grand groupe qui, effectivement, Covid étant, pose quand même certains problèmes.
Forcément, c'est vrai que c'est compliqué sur cette action-là. Est-ce que plus globalement, la crise sanitaire a eu un gros impact sur vos activités ?
Alors sur nos activités propres, oui, parce que quand on a été fermé ici, c'est que sur au niveau de l'espace vente, que ce soit chez nous ou dans les comités, automatiquement c'est de l'argent qui ne tombe pas. Hein, donc ça, ça a quand même impacté assez sérieusement les finances. Bon, heureusement, que ce soit les communes, le département, la région ou l'État sont quand même intervenus pour limiter énormément les dégâts. Il y a toute une organisation justement pour respecter les règles d'hygiène qui font que il y a un investissement indispensable par rapport à ça. Et plus une information, parce que nous on insiste aussi sur le fait qu'il y a le matériel, mais il y a aussi l'information auprès du public, de façon à ce que les gens soient bien au courant de ce qu'il faut faire et ne pas faire.
Donc ça veut dire que oui, il a fallu très concrètement vous équiper, j'imagine, en masque, en gel hydroalcoolique.
Masque, gel hydroalcoolique, cloison mobile pour faire des parcours, distributeur de gel, barrière de plexiglas un petit peu partout. Hein, donc effectivement, c'était un gros équipement, mais bon, on y tenait, du moins j'y tenais toujours. Hein, ce qui est un maximum de sécurité à tout niveau, que ce soit pour les bénévoles. Hein, c'est peut-être aussi ce qui fait que certains bénévoles, la plupart des bénévoles sont revenus sans état d'âme, parce qu'ils sont aperçus qu'effectivement, on allait prendre toutes les précautions qu'il fallait. On était fermé pendant la période de confinement total. Hein, et puis sinon, oui, alors qu'on a une jauge, bien sûr, de personnes qui peuvent venir. Mais sinon, grosso modo, oui, les gens sont revenus à peu près comme avant.
D'accord. Il y a peut-être par contre, malheureusement, plus de personnes qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire.
Alors là, ce que je disais, on a augmenté en gros entre 30 et 35% du nombre par rapport, quand je parle de janvier 2021 par rapport à janvier 2020. Hein, et sur la totalité des chiffres, on s'aperçoit que, quelles que soient les tranches d'âge, quelles que soient les situations professionnelles ou pas, on est dans cette zone de 30-33% d'augmentation de personnes qui sont en demande.
Et vous parlez justement des catégories professionnelles, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des populations que vous ne voyiez pas forcément avant, que vous voyez de plus en plus avec cette crise, ou peut-être même, on va dire, plus globalement depuis quelques années ?
Alors, sans faire le lien vraiment direct en chiffres, on s'aperçoit quand même qu'on a 97 personnes qui étaient en intérim. Et donc, qui viennent chez nous, ça veut dire qu'elles n'ont plus cette possibilité-là, hein, de travail qui leur permettait de temps en temps de sortir un petit peu la tête de l'eau. Donc ça, c'est, je vous dis, 97 personnes qu'on ne voyait quasiment pas, hein, et qu'on voit maintenant. On a aussi des retraités, mais ça date depuis un petit moment, où le nombre de retraités augmente quand même régulièrement, puisqu'il y a quelques années, on avait 2 ou 3. Là, on doit être à 70, hein, personnes à la retraite qui sont obligées de venir, et hélas, qui devront venir... Je crains un certain temps, parce que les retraites ne nous monteront pas au point de ne plus venir, quoi.
Donc c'est vrai qu'il y a ces changements-là, peut-être même un peu plus à moyen terme. Là, qu'est-ce que vous espérez pour cette année ? Parce qu'on se doute que tout, même lorsqu'il y aura plus ce spectre du Covid, tout ne va pas repartir d'un coup. Qu'est-ce que vous espérez pour cette année 2021 ?
Ben, c'est la grosse interrogation, en fait, hein, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va redémarrer, mais je pense que c'est effectivement pour nous, pour les personnes qu'on a, c'est effectivement tout ce qui est en travail temporaire et intérimaire. Si ça ne redémarre pas, sachant qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui auront perdu leur emploi, même si pour l'instant on ne le sent pas trop, mais c'est surtout ces emplois précaires ou ces emplois à temps partiel ou ces emplois d'intérim. Si ça ne redémarre pas, là ça devrait vraiment inquiétant. Sur le plan, je dirais, social, mais sur le plan psychique et psychologique des personnes. Parce que ces personnes-là qui essaient quand même de s'en sortir, si au bout d'un certain temps, elles ne voient pas le bout du tunnel, elles vont se décourager. Quoi.
Alors que, justement, c'était ma prochaine question, c'est-à-dire que ici, bon, bah, forcément, elles viennent pour, en général, quelque chose de précis, alors que ce soit l'aide alimentaire ou une aide pour un dossier ou quelque chose. Mais il y a aussi, j'imagine, l'échange avec le bénévole qui est très important.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a une permanence d'accueil. Hein, ce sont des gens qui sont formés, hein, parce qu'on a un institut de formation national. Donc, toutes les personnes qui accueillent dans les permanences d'accueil ont eu cette formation-là. Donc, l'objectif, c'est effectivement de discuter avec les gens, de voir un petit peu leurs problèmes, d'essayer de voir s'il y a des solutions. Donc, ça impose à ces bénévoles d'être au courant un petit peu de tout ce qui se passe au niveau social, au niveau des opportunités, que ce soit des opportunités de travail ou autre. Et c'est surtout de la discussion, et c'est vrai que le rapport n'est pas du tout le même. Pendant le premier confinement, si vous voulez, on a mis en place, un système d'appel téléphonique. C'est-à-dire qu'on a été 5 ou 6 bénévoles, j'ai réparti le nombre de personnes qu'on aidait, et donc chacun avait sa liste de bénévoles, était censé téléphoner donc à ces personnes-là pour savoir un peu comment ça se passait, pour leur expliquer un petit peu aussi que notre fonctionnement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été aussi très très apprécié au niveau des personnes, hein, de voir qu'on les appelait, puis qu'on s'intéressait à elles. Qu'on leur donnait aussi des informations sur notre nouveau fonctionnement, mais on leur demandait aussi comment ça allait, si ça se passait pas trop mal, choses comme ça. Le fait d'en parler, déjà, on n'avait pas grand chose à leur offrir d'autre, mais le fait simplement d'être une écoute, je pense que c'est quelque chose d'important. L'écoute, c'est quelque chose qui est vraiment très très important.
Vous le ressentez peut-être encore plus aujourd'hui, finalement ?
Oui, c'est lié de liens de confiance, hein, dans les personnes qui viennent, hein, qui n'hésitent pas à parler, que ce soit d'ailleurs les personnes de la permanence d'accueil ou les personnes sur le secteur, parlent d'un petit problème, on connaît un peu le problème, on pose des questions par rapport à ça, donc ce ne sont pas des numéros ni des inconnus, quoi.
C'est tout cet aspect humain, j'imagine, qui vous plaît.
Tout à fait. C'est en plus dans mon ADN, sans doute. Hein, mais moi, j'adhère totalement et complètement à notre formule qui est tout ce qui est humain et nôtre. Et ça résume tout à fait le secours populaire, en fait. C'est-à-dire qu'on prend la personne telle qu'elle avec ses problèmes en essayant, si possible, de ne pas juger. Parce que qu'est-ce qu'on a pour juger les gens? Mais c'est surtout ça, accueillir la personne sans jugement, sans s'occuper des causes. Parce que nous, les causes, on n'est pas à même de pouvoir les résoudre, mais sur les conséquences, essayer de faire en sorte que ces conséquences-là soient les moins dures possibles, quoi.
Et c'est aussi ce qui anime les 140 bénévoles actifs dans le département, à l'image de Claudine et Catherine.
Je m'appelle Claudine Pantier, je suis donc bénévole au Secours Populaire depuis 2008 maintenant. Et je m'occupe donc plus de l'alimentaire et de la distribution de jouets à Noël.
Moi, je suis Catherine Georges, je suis bénévole depuis 3 ans. Je suis plutôt polyvalente. Donc, un petit peu l'alimentaire, un petit peu le bazar, un petit peu l'accueil des nouveaux bénévoles. Je crois que d'abord, c'est le contact avec les bénéficiaires du Secours Populaire, mais c'est aussi la rencontre avec les autres bénévoles. Donc, ce sont les deux aspects.
C'est le contact humain aussi, et puis je trouve de connaître un petit peu les difficultés aussi des personnes assistées, nous permet aussi de voir des différents types de familles et pareil aussi l'échange aussi entre les bénévoles. Voilà, parce que on est bénévole, on aide, mais on est aidé aussi, on reçoit aussi en fait. Hein. Je crois qu'il faut pas oublier ça non plus. On reçoit aussi des familles qu'on reçoit. Il y a eu beaucoup de dons, beaucoup plus de dons cette année. On a l'impression que les gens ont eu besoin justement aussi de donner la collecte de jouets, si vous voulez, beaucoup en quantité et en qualité. Donc ça, c'était ça nous donnait du baume au cœur. Et il y avait aussi, par contre, beaucoup plus de jouets à distribuer puisque les familles aussi avaient augmenté. Mais l'un dans l'autre, on a réussi et c'est bien. Ça se passe quand même bien parce que nous avons eu des subventions pour nous permettre d'acheter notamment des produits frais ou des légumes, des fruits, et puis des produits congelés aussi, des produits secs pour pouvoir un petit peu améliorer la distribution et augmenter un petit peu les repas des personnes assistées.
Ah oui, on a vu beaucoup plus de monde et on a beaucoup pratiqué la gratuité aussi cette année, hein, pendant la première période de confinement. Ce qui est absolument différent de ce qu'on fait d'habitude, où chacun paye un peu pour ce qu'il reçoit. Là, c'était vraiment la gratuité parce qu'il y avait des vrais besoins. Et des vrais besoins chez des gens qui n'avaient plus besoin et qui revenaient, ou des gens qui arrivaient pour la première fois. Mais c'est vrai qu'il y a eu une forte augmentation du nombre de gens qui ont reçu notre aide.
Et pour accompagner cette hausse, l'État a aussi augmenté les subventions accordées aux associations comme le Secours Populaire, qui distribue des produits alimentaires et des produits d'hygiène. Explication avec le préfet de la Mayenne, Jean-Francis Treffel.
L'État dispose de nombreux moyens d'intervention publique, mais il ne pourrait rien faire s'il ne pouvait pas bénéficier de relais sur le terrain. Et les associations, dont le Secours Populaire, est une de ces belles associations qui nous permet d'apporter un relais et de mettre en œuvre de façon concrète l'ensemble des moyens qui sont mobilisés par le niveau national. Le Secours Populaire ici, et c'est la raison de ma venue, a été exemplaire, comme l'ensemble du tissu associatif qui intervient pour les plus démunis entre nous dans ce département de la Mayenne. Cela a pris la forme d'aide alimentaire, bien évidemment, mais pas que cela. Également, des aides en vêtements, des aides à l'ameublement, des aides également au moment de Noël, à la distribution de livres ou de jouets pour les personnes les plus démunies. Et puis, nous sommes dans une période de crise sanitaire et cette année passée a été marquée par l'intervention du Secours populaire, à la fois pour apporter des repas, mais également pour distribuer soit du gel hydroalcoolique, soit des masques pour pouvoir se protéger et respecter les gestes barrières. Et en ce domaine, l'État a distribué aux associations, à destination des plus démunis, 480 000 masques depuis un an, et le Secours populaire en a bénéficié de près de 5 000. On peut considérer que l'aide aux associations a augmenté. Si je prends l'exemple du Secours populaire où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est une aide qui est passée de 20 000 euros à 35 000 euros. C'est une aide qui a quasiment doublé pour cette association. En 2021, le soutien financier de l'État ne sera au moins équivalent à celui de l'année passée.
Soit près de 220 000 euros attribués cette année à 10 associations caritatives en Mayenne, c'est 4 fois plus qu'en 2019. On revient d'ici quelques minutes après la pause musicale assurée par Herman Dune avec Mookie Mookie. Écoutez toujours l'agité du local sur l'autre radio et c'est le moment de prendre un carnet, un crayon et d'être prêt à noter ou en tout cas de bien ouvrir ses oreilles pour écouter le coup de cœur BD de François ce lundi. qui n'est pas prêt. Bien sûr, il y a un petit souci technique au niveau du son. Je pensais que le coup de cœur de François était prêt à partir, mais en fait, pas du tout. Donc, on va réécouter une autre chronique proposée par Emnir aussi, bien sûr. Juste le temps que la technique se règle, évidemment. Ce sont les aléas du direct, hein, évidemment. Donc, hop. Et en avant-première, normalement, celle de Christophe.
Emelie Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour ! Voici un livre totalement original qui vient d'avoir le prix Auguste, c'est-à-dire l'équivalent du prix Goncourt en Suède. L'auteur s'appelle Patrick Svensson. Et le titre de son best-seller international traduit dans plus de 30 langues, c'est « L'évangile des anguilles » et ça paraît au Seuil, ici, au mois de janvier. Et voilà, une histoire très étonnante, puisque Patrick Svensson va partir d'un récit intime, puisqu'il se souvient, avec son père, d'avoir longuement pêché l'anguille sur une barque, dans un lac, le long des rivières. Et en partant de ce récit, il nous montre sa fascination pour ce poisson, l'anguille. Waouh, vous allez me dire, sujet très très original, en effet, pour la littérature. Eh bien, dans ce récit intime, nous allons aussi plonger dans une véritable aventure scientifique qui va nous faire apprendre tout un tas de choses sur l'anguille. Excitant, n'est-ce pas? Eh bien, l'anguille fascine depuis la nuit des temps. Sachez que Aristote s'est longuement penché sur l'anguille, Freud également. Mais pourquoi ont-ils tous cherché à creuser les mystères de l'anguille? Eh bien, vous verrez que d'une aventure scientifique, écologique, quasi existentialiste, eh bien, il s'en dégage un excellent livre. Je vous laisse découvrir l'originalité de l'Évangile des anguilles de Patrick Svensson aux éditions du Seuil.
Retrouvez Aime lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, et sur l'autre radio.
Et c'était une chronique en avant-première puisqu'elle sera diffusée demain matin pour les plus matinaux d'entre vous. Place au feuilleton avec toi Claire, cette semaine le studio vidéo de la ville de Laval qui a été créé en avril 1981 nous ouvre ses portes.
Et oui, c'est 40 ans d'archives audiovisuelles, c'est ce que nous propose de découvrir Stéphane Piau, vidéaste pour la ville de Laval depuis 35 ans déjà. À l'occasion de cet anniversaire, le vidéaste réalise un film sur la ville de 1920 à 1980. Aujourd'hui, il nous explique les étapes techniques de fabrication d'un documentaire d'archives.
La première étape, ce qui n'est jamais évident, on ne fait pas un documentaire historique sur Laval sans prendre le soin d'avoir le nombre suffisant d'archives. Et ça, c'est un travail colossal. On travaille depuis 35 ans avec les cinéastes amateurs et les cinémathèques. Et chose surprenante, on pourrait penser qu'au bout de 35 ans, on a fait le tour. Et à chaque fois, on retrouve des vieux trésors qui sommeillent encore dans les tiroirs ou les greniers de familles lavalloises. On se battait depuis longtemps avec le Conseil des Sages, la municipalité et moi-même pour numériser au plus vite les prises de vue, sans quoi on aurait pu perdre des vrais trésors audiovisuels de la ville de Laval. Et donc, toutes ces archives, les plus de 1500 cassettes sont numérisées et mises sur des disques d'archivage informatique. Quand on a suffisamment d'archives, on se décide de faire un clip sur Laval ou là un documentaire historique. Mais aussi, bien sûr, il est important d'archiver et de laisser une trace audiovisuelle. Après, c'est la sensibilité du réalisateur, des historiens. Mais forcément, il faut qu'on fasse un petit scénario, un commentaire, voir les prises de son, les choix des musiques, rencontrer des témoins pour qu'ils nous aident dans le commentaires et puis de savoir ce qu'ils ont vécu sur place pour ne pas tronquer l'histoire de la ville. Pour les films qui datent de 40 ans, évidemment j'étais sur les lieux de tournage donc je me rappelle à peu près de ce qui s'est passé, mais c'est pour les films qui sont antérieurs à 1980 et donc là forcément on fait appel à la mémoire des témoins lavallois. On travaille avec des historiens du service patrimoine de la ville de Laval, les témoins lavallois comme je vous ai dit, on a à peu près 50 ou 60 témoins avec qui on travaille régulièrement. On travaille avec d'autres services municipaux comme les archives municipales et départementales. d'autres services, des élus qui viennent valider aussi le film. Faut vraiment avoir le feu vert de la municipalité pour faire des films comme ça. On passe du temps, donc faut que tout le monde tire dans le même sens. De 81 à 1991, donc 10 ans, on le tournait en format U-matique 3 quarts de pouce. Donc de là, on a à peu près 350 cassettes en rush prise de vue et à peu près 130 master films. On a fait des films à partir de ces prises de vue. Et donc ça, c'est ce premier format. Après, de 91 jusqu'à 2010, avant de passer sous l'ère du numérique, on filmait en format Betacam SP. Donc là, c'est encore plus énorme, comme vous avez pu le voir. On a 815 cassettes de 30 minutes en rush prise de vue et à peu près 150 master films, là où on a fait des documentaires ou des clips sur la ville de Laval. Donc nous, on travaille avec le logiciel Final Cut Pro et donc on fait des choix de musique, on essaye d'amener déjà toutes les images, les musiques, les sons sur l'ordinateur. Et puis après, c'est un choix drastique avec les historiens, les témoins lavallois. Le plus dur, souvent, c'est que moi, j'aimerais bien faire plus long, mais à chaque fois, on me dit de couper, que ça va être trop long. Et c'est un crève-cœur de couper dans des vrais trésors historiques, quoi. Là, on en est rendu au 8e film historique et tous les films ont été projetés. Et à chaque fois, à notre grande surprise, on a eu énormément de monde à la salle polyvalente. On a même sorti des DVD après. Et c'est de l'ordre de 3000 à 4000 DVD à chaque fois que l'on vend. Donc c'est fabuleux. Et moi, je suis convaincu, là, c'est les Lavallois, mais je suis convaincu que les Français aiment l'histoire et le patrimoine de toute leur ville.
Maintenant que nous savons comment réaliser un film d'archives, rendez-vous demain pour visionner, enfin écouter, le film Laval de 1920 à 1980 avec Stéphane Piau.
Merci beaucoup Claire, on a hâte en tout cas de découvrir ce deuxième épisode de ton feuilleton. C'est désormais l'heure de la rubrique Initiative et aujourd'hui, préparez vos CV puisque tu nous proposes Claire une spéciale emploi.
Et oui, on commence avec l'entreprise Daniel Moquet, située à Parigny-sur-Bray. Il recherche pas moins de 600 postes dans toute la France, dont 350 en apprentissage. Ce sont des postes de paysagiste, un métier en plein essor grâce à cette année particulière, où les particuliers justement redécouvrent leur extérieur et ont envie de les aménager. Envoyez votre CV et votre lettre de motivation sur le site rejoindre-daniel-moquet.fr.
Un fast-food ouvre bientôt à Laval et recherche ses employés.
C'est l'ancienne Burger King qui va ouvrir un de ses restaurants près du carrefour Grenoux. Il recherche plusieurs employés polyvalents de restauration. Dans le cadre de l'opération Un jeune, une solution, une session de recrutement spéciale moins de 26 ans se tiendra demain à 9h au Pôle emploi de Laval. Pour s'inscrire, envoyez un mail à recrutement@leader-academy.fr.
Et malgré le contexte particulier, la tradition du festival Un singe en été perdure.
Et oui, comme chaque année, les bénévoles de l'association Les Possibles se chargeront de la restauration du Festival de Musique Actuelle. Si vous aimez cuisiner, découvrir de nouvelles recettes et transmettre, le Centre Social de Mayenne recherche activement les prochains bénévoles qui assureront la restauration du 25 au 27 juin 2021. Une réunion est prévue demain de 13h30 à 15h au Possible, place Cambetta à Mayenne. L'inscription y est obligatoire au 06 80 68 84 63.
Merci beaucoup Claire. Et on va désormais écouter un petit message d'une auditrice. Vous le savez, on en parle depuis quelques semaines. On vous propose de laisser un message sur notre répondeur. Je vous laisse écouter celui qui a été laissé ce week-end.
Bonjour, c'est Barbara et c'est moi qui fais le répondeur de l'autre radio. Si vous appelez ce numéro, c'est que vous souhaitez communiquer une annonce. Votre message est susceptible d'être diffusé sur nos ondes. N'hésitez pas à être complet dans votre message pour nos auditeurs.
Oui, bonjour, je suis une personne en situation de handicap. Je suis à la recherche de personnel pouvant intervenir chez moi, ayant un peu de connaissances pour de l'aide à la personne. Serait-il possible que, si vous êtes intéressé, de me recontacter au 07 71 18 26 30. C'est sur Laval et c'est payé en CESU. Voilà, merci beaucoup à toutes celles ou ceux qui me contacteront. Au revoir.
Merci.
09 70 40 59 40.
Et bien vous avez même le numéro en prime, on le rappelle, hein, donc 09 70 40 59 40 si vous voulez vous aussi nous laisser votre message. Merci Claire, c'est déjà la fin de notre émission L'Agité du Local. À demain.
Merci Marie, merci tout le monde et à demain.
Et à suivre à l'antenne à 19h, il y aura Solénoïde. À 20h, ce sera la discothèque de La Sagesse de Tugue. Et suivi à 21h de l'émission L'Aléatoire. Et nous, on se retrouve demain à 12h15. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage. Invité interview. Voilà, c'est la JT du local.